idées et de la recherche alors que la 29e COP pour le climat se tient présentement en Azerbaïdjan. Un concept dans la lumière, la géo-ingénierie. On en discutera avec Marine de Guglielmo-Weber. Elle est historienne des sciences et fait paraître avec le journaliste Rémi Noyon le grand retournement aux éditions des Liens qui libèrent. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 18h. Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La réforme du financement de l'audiovisuel public définitivement adoptée par le Parlement, mais le débat n'est certainement pas clos, nous dira Fiona Mogadam qui a suivi le vote des députés. Nous irons au congrès des maires où des élus écologistes ont confié à Sophie Delpont combien ils doivent composer avec les contraintes budgétaires et les attentes des habitants. Médecins sans frontières suspend ses activités à Port-au-Prince. L'ONG dénonce des violences et des menaces de la police haïtienne. Nous ferons le point avec Omar Waman. Et à 2 mois de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, le dossier de ce journal est consacré aux ambitions de l'équipe du président élu en matière d'intelligence artificielle. Depuis la suppression de la redevance il y a 2 ans, l'audiovisuel public était dans l'incertitude. Or, pour exercer sa mission de service public, il a besoin de visibilité sur ses ressources et de garanties d'indépendance. Le Parlement lui a apporté une réponse cet après-midi en approuvant définitivement la réforme du financement donc de l'audiovisuel public. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Les députés ont voté pour la pérennisation du mécanisme provisoire qui avait été mis en place en 2022.
C'est donc une fraction sûrement de la TVA qui va continuer de financer l'audiovisuel public. La loi prévoit que ce soit en fait le montant d'un impôt sans le préciser. Un vote sans surprise, la plupart des groupes à l'Assemblée ont martelé qu'il fallait à tout prix éviter une budgétisation de l'audiovisuel public. C'était le risque car la mesure actuelle devenait caduque au 31 décembre. Seule la France insoumise a maintenu ses amendements, notamment pour le retour d'une nouvelle redevance, le député Aurélien Saint-Toul.
L'affectation d'une partie de la TVA n'est pas une bonne idée. D'abord parce que vous aimez à ce que nos concitoyens sachent ce que coûtent les services dont ils bénéficient. Si vous affectez une partie de la TVA, la lisibilité est moins grande. Et puis, l'enjeu, c'est que la TVA est une taxe particulièrement injuste.
Mais une nouvelle redevance serait encore une atteinte au portefeuille des Français pour le RN, pour qui la solution, c'est la privatisation. Le député Laurent Jacobelli.
On a un service public aujourd'hui militant qui gère mal l'argent public. Alors finalement, privatisons. Privatisons pour moins d'impôts. Privatisons pour plus de pluralisme. Et privatisons pour moins de Saint-Toul.
Avant la dissolution de l'Assemblée, la ministre de la Culture, Rachida Dati, prévoyait la fusion des entreprises de l'audiovisuel public. Désormais, c'est la holding qui est privilégiée. Sujet attendu notamment par le député Horizon, Jérémy Patrier-Lettus.
Ce vote doit être aussi le début d'un travail approfondi sur l'avenir de l'audiovisuel public et nous attendons, Madame la Ministre, l'arrivée d'un débat sur le projet de gouvernance de l'audiovisuel public pour pouvoir définir des objectifs stratégiques.
Le financement de l'audiovisuel public devrait aussi être rediscuté. La députée communiste Soumia Bourroa veut déposer une proposition de loi pour l'instauration d'une contribution affectée, universelle et proportionnelle, vue comme la meilleure des solutions.
Fiona Mogadam, toujours à l'Assemblée, l'abrogation de la réforme des retraites a été approuvée en commission des affaires sociales. Le texte présenté par le groupe La France Insoumise dans le cadre de sa niche parlementaire a été approuvé par 35 voix contre 16. Au congrès des maires de France, porte de Versailles à Paris, les élus locaux protestent contre les coupes budgétaires que le gouvernement veut leur imposer. L'exercice du pouvoir local est semé d'embûches, disent les élus. Inutile d'en rajouter. Sophie Delpont a rencontré des maires écologistes qui estiment devoir déjà beaucoup s'adapter au quotidien.
À l'épreuve du pouvoir local, il n'est pas toujours simple d'exercer une politique écologiste, comme le reconnaît Fanny Dubeau, maire écolo du 7e arrondissement de Lyon.
De toute manière, quand on est maire, on compose. Donc en fait, la plupart des décisions sont concertées, discutées, de toute manière explicitées. Et quand on doit éteindre des bâtiments publics, c'est souvent les jours où c'est moins fréquenté par les touristes, les jours où ça ne met pas en danger les personnes qui passeraient devant. Donc typiquement, on ne le fait pas le samedi soir parce que l'éclairage public sert quand même à amener une certaine forme de sécurité dans la ville. Donc évidemment qu'on compose avec la vie des gens, leur vie quotidienne, mais que par contre les mesures d'extinction de l'éclairage public peut nous amener à faire des économies et en plus est bon pour la planète. Mais on le fait dans le respect des habitants.
Christian Métairie est le maire écologiste d'Arcueil en banlieue parisienne et membre du bureau exécutif de l'Association des maires de France. Il fustige les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement Barnier.
La difficulté, c'est que les communes doivent voter un budget en équilibre. C'est pas tout à fait la même chose pour l'État. Donc aujourd'hui, est-ce que je vais arrêter de végétaliser chaque année une cour d'école, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour la planète, pour la température qui baisse et pour les enfants. Non. Est-ce que je vais fermer le cinéma municipal ? Non. On a des dépenses sociales qui explosent. Est-ce que je vais les diminuer ? Non.
Il espère que le Premier ministre ne viendra pas les mains vides face aux maires et reviendra sur ce qu'il qualifie de plan d'austérité budgétaire.
Michel Barnier doit se rendre au Congrès des maires de France demain. Au procès des viols de Mazan, la cour criminelle du Vaucluse a entendu cet après-midi les plaidoiries de la partie civile. Les avocats de Gisèle Pellicot et de ses enfants ont voulu interpeller la société dans l'espoir que ces débats soient le terreau d'une prise de conscience, d'un changement de mentalité sur les questions du consentement, de la soumission chimique et plus généralement, Julie Pacaud, des rapports hommes-femmes.
Comment en France une femme peut-elle encore subir ce qui a été infligé à Gisèle Pellicot pendant 10 ans, interpelle Maître Camus à la barre. Comment en France, en 2024, peut-on trouver au moins 50 hommes dans un rayon de 50 km pour venir profiter de ce corps inerte, s'interroge-t-il, estimant que les qualifications juridiques sont bien trop étroites pour appréhender ce dossier dans son entièreté et son horreur. Car ce dont a été victime Gisèle Pellicot, eh bien un viol de masse, souligne Maître Camus. Et chacun des accusés a contribué à cette monstruosité, démissionnant de la pensée pour faire prévaloir ses pulsions, réduisant Gisèle Pellicot à l'état de réceptacle. Gisèle Pellicot, qui en refusant le huis clos, a voulu donner à voir la manière dont en France, en 2024, on défend encore un viol. Et cette défense n'a pas évolué depuis 1978 et le procès dit du viol d'Aix-en-Provence, démontre Maître Babonneau, qui égrène les arguments abjects avancés par les accusés, qui contestent l'intention de violer, allant jusqu'à parler de viol involontaire, de viol accidentel, de viol altruiste, et invoquant l'erreur d'appréciation. 48 ans après, on entend toujours que les hommes accusés de viol sont aussi des victimes. On entend toujours que le viol était un malentendu, que si une femme est violée, quoi qu'on en dise, c'est quand même un petit peu de sa faute, soulève-t-il. Avant de s'adresser directement au juge, en reconnaissant le droit à l'erreur des accusés, vous mettrez en péril la société tout entière et vous prendrez le risque de voir se multiplier les Gisèle Pellicot, met en garde l'avocat, selon qui nous sommes à la croisée des chemins. Car si le viol fait aujourd'hui l'objet d'un rejet viscéral dans la société, les moyens de le commettre n'ont jamais été autant facilités, souligne Maître Babonneau, appelant donc à faire de ce procès un testament pour les générations futures.
Julie Pacaud à Avignon. Pierre Palmade demande pardon aux victimes de l'accident de la route qu'il a causé le 10 février 2023. Le procès de l'humoriste s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Melun. Je comprends leur colère. Un fou drogué leur est rentré dedans. C'est de l'ordre de l'inexcusable, déclare Pierre Palmade. Je leur demande pardon du plus profond de mon être. Haïti continue de s'enfoncer dans la violence et aujourd'hui, Médecins sans frontières jette l'éponge. L'ONG suspend ses activités dans la capitale Port-au-Prince, mais ce n'est pas seulement à cause des gangs armés. MSF dit avoir subi des menaces de la part de la police haïtienne au Marouamane.
Depuis le 11 novembre dernier, MSF a été confronté à au moins 5 incidents graves. Des ambulances attaquées ou arrêtées, des patients exécutés ou pris à partie et le personnel menacé. L'ONG met en cause la police nationale haïtienne ainsi qu'une partie de la population organisée en groupe d'autodéfense. Sarah Château est la responsable des opérations en Haïti pour Médecins sans frontières.
La principale raison, en tout cas, qui nous est indiquée et qui clairement menace nos équipes, c'est le fait que nous soignons des bandits. Et c'est vrai que pour nous, un patient est un patient, c'est compliqué de savoir qui est un bandit, d'un blessé civil. Et le fait de soigner tout le monde fait qu'on soigne aussi des membres de gangs. On soigne des policiers, on soigne des militaires, on soigne de la population civile principalement. Mais l'accusation principale, c'est vous soignez des bandits, vous ne nous aidez pas. Et donc, on ne veut plus de vous.
À Port-au-Prince, MSF travaille dans des conditions d'insécurité extrême depuis des années. Mais un regain de tension ces derniers jours l'a poussé à suspendre l'ensemble de ses activités. Une décision sans précédent.
On a déjà suspendu des projets en particulier qui avaient été victimes d'attaques, d'intrusions. Mais l'ensemble des activités de Médecins sans frontières, c'est la première fois qu'on en arrive à ce stade-là, parce que nos équipes sont ciblées partout dans la ville.
Et cette suspension vise à protéger le personnel de Médecins sans frontières, mais également à alerter les pouvoirs publics haïtiens.
Omar Waman. Après les missiles américains à longue portée pour frapper le sol russe, la Maison-Blanche approuve la livraison à l'Ukraine de mines antipersonnelles. Ces armes sont très controversées parce qu'elles tuent et blessent bien souvent des civils. Et on peut se demander, Camille Magnard, pourquoi le président américain franchit aujourd'hui une ligne rouge qu'il s'était lui-même fixée.
Oui, c'est vrai que Joe Biden craignait jusque-là le signal négatif envoyé par le fait de fournir des mines antipersonnelles à l'Ukraine. Ces armes interdites par la Convention internationale d'Ottawa de 1997 qui a été ratifiée par plus de 160 pays, dont l'Ukraine, mais pas les États-Unis et la Russie. Et même si l'administration Biden a changé de position, si elle l'a fait en tout cas, c'est qu'elle considère qu'il y a urgence à retarder l'avance des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. On sait que les Russes mettent le paquet en ce moment pour conquérir le plus de terrain possible avant un éventuel gel des positions pour négocier. Et les Américains semblent craindre un effondrement des premières lignes de défense ukrainiennes. Les mines antipersonnelles dans ce contexte peuvent être considérablement efficaces pour ralentir cette avancée. Et les Américains précisent qu'ils vont fournir des mines dites non persistantes, des mines qui ont une durée de vie limitée et qui peuvent, nous dit-on, s'auto-désamorcer, s'auto-détruire.
Enfin, l'annonce américaine provoque tout de même une polémique.
Oui, parce que même ce type de mine non persistante viole la Convention d'Ottawa de 1997. Du coup, la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles, qui était lauréate, on s'en souvient, du prix Nobel de la paix, cette même année 1997, juge désastreuse aujourd'hui la décision américaine. Elle appelle l'Ukraine à renoncer à utiliser ses armes, ce qui semble, il faut bien le dire, improbable compte tenu de la situation militaire qui lui est très défavorable à l'Ukraine ces derniers jours dans les secteurs stratégiques de Pokrovsk et de Kourachové dans le Donbass, où pas un jour ne passe sans que la Russie n'annonce avoir conquis une nouvelle localité ukrainienne.
Merci Camille Magnard. Le président élu Donald Trump est d'ores et déjà convié au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle prévu à Paris les 10 et 11 février prochain. En marge du G20 à Rio, Emmanuel Macron a indiqué qu'Elon Musk serait lui aussi invité, comme les grands entrepreneurs impliqués sur ces questions. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
Il faut dire que l'un des dossiers les plus sensibles sur la table du futur président est celui de l'intelligence artificielle.
Oui, et on peut dire qu'il est difficile d'y voir clair dans la politique, la future politique de Donald Trump concernant l'intelligence artificielle. Il est assez ambivalent sur le sujet. Voici par exemple ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle dans le podcast du YouTuber Logan Paul.
L'IA, c'est très déconcertant. J'ai utilisé le mot alarmant. Si vous êtes le président des États-Unis et que via l'IA vous annoncez l'envoi de 13 missiles, bon, on ne va pas dire sur quel pays. Que va faire le pays en question? Il va peut-être contre-attaquer. C'est tellement dangereux. D'un autre côté, c'est tellement incroyable. Ils ont fait une publicité dans laquelle je faisais la promotion d'un produit, mais ce n'était pas moi. Et j'ai demandé, est-ce que j'ai fait cette publicité? Ai-je oublié que j'ai fait cette publicité? C'est inouï. Donc oui, ça peut créer des problèmes, mais ce qu'ils arrivent à faire est tellement incroyable. J'ai fait réécrire un discours par l'IA et le résultat était super bien écrit. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et en plus, c'est rapide. En l'espace de quelques minutes, c'est fait. Ça fait un peu peur.
Alors, dans son programme, on a au moins une piste. Il abrogera le décret signé par Joe Biden fin 2023, imposant des garde-fous, notamment en matière de sécurité nationale. Darrell West est chercheur au Centre sur l'innovation technologique à la Brookings Institution à Washington.
Ce que Biden a fait, c'est d'ordonner à chaque agence fédérale d'utiliser l'IA à un niveau plus élevé qu'elle ne le fait actuellement, tout en prêtant attention à la façon dont elle affecte les gens. Y a-t-il des biais dans les algorithmes quant à la manière dont elles prennent des décisions? Que se passe-t-il en termes de protection de la vie privée? Dans quelle mesure les applications d'IA sont-elles sécurisées? Le fait que Trump veuille abroger le décret signifie que bon nombre de ces garde-fous vont disparaître. Trump va développer son propre programme en matière d'intelligence artificielle et je suppose que ce sera plus favorable à l'innovation et plus anti-réglementation que si les démocrates étaient restés au pouvoir.
Alors, dans l'entourage de Trump, vous avez plusieurs personnalités anti-réglementation, férocement anti-réglementation même. Le futur vice-président J.D. Vance, qui a lui-même investi dans la tech et pour qui les conséquences sociales de l'IA ne sont vraiment pas une priorité. Vous avez le richissime idéologue du mouvement trumpiste Peter Thiel, cofondateur de PayPal, patron de Palantir, pour qui, je cite, « la véritable menace pourrait venir d'un gouvernement ayant le pouvoir de réglementer l'IA ». Tout est dit. Puis il y a Elon Musk, évidemment, tout en craignant une IA qui surpasse l'humanité, il est contre les réglementations. L'arrivée de cette nouvelle équipe prend en fait de court le législateur américain qui, en matière de conséquences de l'intelligence artificielle, n'a pas avancé aussi vite que les progrès technologiques. Nicole Turner-Lee est chercheuse à la Brookings Institution.
We've had conversations on a variety of levels.
Nous avons eu des conversations sur les suppressions d'emplois, mais nous ne les avons pas encore quantifiées ici, aux États-Unis. Nous avons beaucoup parlé de l'IA générative en ce qui concerne les problèmes de droits d'auteur ou de propriété intellectuelle, mais nous n'avons pas encore adopté de législation fournissant de plus grandes orientations. Et je pense que la liste pourrait s'allonger lorsque nous parlons des préjugés ou des atteintes aux droits civiques. C'est tout le défi que représente une année électorale. Nous manquions de lois sur ces sujets avant le changement de pouvoir.
Alors, l'objectif de Donald Trump est bien de contrer la Chine. Hein, c'est son objectif numéro un, qui investit massivement dans le développement de ses outils d'IA. Et les États-Unis sont pour l'instant numéro un en la matière et Trump compte bien qu'il le reste.
Valérie Cantier. Depuis les résultats de l'élection présidentielle américaine, le réseau social X du milliardaire Elon Musk connaît une véritable vague de départ, y compris chez les médias. Le journal britannique The Guardian ou encore La Vanguardia en Espagne ont annoncé quitter le réseau social. En France, hier, Ouest France leur a emboîté le pas, dénonçant la désinformation et le manque de modération sur X. Un rival profite à plein de ce phénomène, le réseau social Blue Sky, ou Ciel Bleu en français. Il a récemment atteint les 20 millions d'utilisateurs. Mais si les données de X appartiennent à Elon Musk, qui est donc derrière cette nouvelle plateforme numérique, Pierre Ropert ?
Blue Sky, à la base, c'est un clone de Twitter. Ce réseau est en effet né d'une expérience en 2019 dans les locaux de Twitter, voulue par son fondateur, Jack Dorsey. À l'époque, le directeur de la plateforme veut tenter de créer un réseau social décentralisé, c'est-à-dire un réseau dont le but est de donner plus de pouvoir à ses utilisateurs et non plus à une entité unique. C'est une ingénieure de Twitter, Jay Graber, qui se charge de faire naître cette nouvelle plateforme et fonde donc Blue Sky. 3 ans plus tard, le divorce entre Blue Sky et Twitter est bien consommé. La nouvelle plateforme a pris son indépendance dès 2022 avec Jay Graber pour nouvelle PDG. En chemin, elle a perdu le très libertarien Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui a décidé de quitter le conseil d'administration. Blue Sky dépend désormais d'une société indépendante d'utilité publique. Aujourd'hui, alors que le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter, c'est désormais la question du modèle économique qui se pose. Jusqu'ici, Blue Sky s'est financé à l'aide de levées de fonds. La dernière en date, fin octobre, leur a permis de récupérer 15 millions de dollars, notamment grâce à la participation de blockchain capital. Pas question pour autant de se tourner vers les blockchains, pas plus que vers un modèle publicitaire. Pour dégager des bénéfices, Blue Sky va miser sur des abonnements payants proposant plus de fonctionnalités. En attendant, le réseau social compte bien tenir sa promesse de décentralisation. Grâce à un protocole spécifique, il devrait être possible pour chaque utilisateur de créer son propre serveur, une gestion qui permet un meilleur contrôle de ses données ou encore d'instaurer des règles de modération plus efficaces, une qualité très recherchée par les utilisateurs fuyant Twitter.
Pierre Repère. En cette journée internationale des droits de l'enfant, une exposition intitulée « Enfants en guerre, guerre à l'enfant » s'ouvre à la Contemporaine, centre d'archives et musée sur le campus de l'Université de Nanterre. Bonsoir Chloé Leprince.
Bonsoir.
Vous avez rencontré l'une des deux commissaires de cette exposition alors qu'elle était en plein accrochage. Cette exposition pose notamment la question du témoignage des enfants. C'est un enjeu crucial en histoire et particulièrement, Chloé, s'agissant des enfants dans la guerre.
Oui, car bien souvent, les chercheurs, les chercheuses ont affaire à de vieux enfants. C'est même une question théorique qui devient explicite dans cette exposition qui démarre aujourd'hui par la manière de faire entendre ces témoignages. Par exemple, celui d'Anita, elle avait 5-6 ans au moment du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La borne sonore nous donne accès au silence, aux hésitations, aux coutures de l'entretien. Ce sont deux étudiants de l'historienne Raphaël Branche qui ont recueilli la parole d'Anita dans le cadre d'un cours de méthodologie. Anne Tournieroux, co-commissaire d'Enfants en guerre.
On voit les étudiants en fait confronter le questionnaire qu'ils ont pu élaborer et s'adapter au fur et à mesure de la réaction du témoin.
Mais donner accès à l'atelier de l'historien, c'est aussi commencer le travail par le livre collectif devenu le catalogue catalogue de l'exposition chez Anna Moza et rendre explicite le statut des sources, leur usage. Une douzaine de chercheurs ont contribué à ce catalogue, suggérant parfois des pièces qu'on retrouve aujourd'hui dans l'exposition. Et puis un entretien a été spécialement réalisé par l'historienne et co-commissaire Manon Pignot pour le catalogue, en amont dès janvier 2024, avant la scénographie. Donc, cet entretien sur le trauma à hauteur d'enfant innerve toute l'exposition. S'agissant des dessins d'enfants, par exemple, une source en histoire depuis à peine une trentaine d'années, Anne Tournierou parle de cet entretien comme d'un garde-fou.
Ça nous a vraiment permis de restituer plutôt leur usage et ne pas justement s'arroger, si je puis dire, des prérogatives qui relèvent de la prise en charge de ces enfants par les psychologues, pour justement éviter cette surinterprétation et s'en tenir finalement au travail de l'historien d'analyse de ces documents-là qui sont pour nous des sources.
Et parce qu'il n'y a pas d'universel de l'enfance dans la guerre, les deux commissaires ont aussi renoncé au Marie-Louise pour encadrer les dessins, par exemple. Surtout, ne pas en faire des œuvres d'art ou des illustrations, uniformiser la représentation.
La météo demain, des nuages du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au nord de l'Alsace, de la neige jusqu'en plaine sur le reste de la moitié nord. Au sud, il y aura de la pluie et du vent. Les températures seront contrastées entre moins 2 et 3 le matin sur la moitié nord et pas plus de 4 l'après-midi. Dans le sud, il fera 5 à 10 degrés au lever du jour, 12 à 17 l'après-midi. 18h20, quant à la fête, c'est donc l'heure de questions du soir.
Merci beaucoup Aurélie Kiefer, merci également à toute la rédaction de France Culture pour ce journal et bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir, 1h30 de rencontres, de débats, d'idées, de découvertes et à 19h dans l'actualité des idées et de la recherche alors que la 29e COP pour le climat se tient présentement en Azerbaïdjan. Un concept ce soir dans la lumière, celui de géo-ingénierie. On en parlera avec Marine de Guglielmo-Velbert, elle est historienne des sciences et elle fait paraître avec le journaliste Rémi Noyon, le grand retournement aux éditions des Liens qui libèrent. Mais tout de suite, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Un peu partout dans le pays, des feux de colère et des routes bloquées par des tracteurs pour mettre la pression sur le gouvernement et empêcher la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Dimanche, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Argentine et a garanti que la France ne signerait pas cet accord en l'état. Alors, où en sont effectivement les négociations? Cet accord est-il fondamentalement une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs et les consommateurs français? Et la France peut-elle vraiment empêcher la signature de cet accord? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir, Arantxa González. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères et de l'Union européenne. Vous l'avez été de janvier 2020 à juillet 2021 et vous êtes aujourd'hui doyenne de l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris. Face à vous, Maxime Combes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste en charge des politiques de commerce et de relocalisation à l'AITEC, l'association de solidarité internationale engagée pour la justice économique, sociale et écologique, et vous êtes par ailleurs spécialiste du commerce international et des accords de libre-échange. Merci à tous les deux d'être ce soir dans Questions du soir.
Aujourd'hui, l'Union européenne, si je prends les pays du Mercosur, l'Union européenne est de loin le premier pour les échanges commerciaux, le premier pour les investissements, et de très loin le premier pour l'aide au développement. Donc il y a là des liens très forts et un équilibre qui s'impose naturellement et qui consiste à avoir un lien très fort entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et je crois que l'Amérique latine comprend parfaitement que son intérêt, c'est naturellement d'entrer courageusement, ce qu'elle fait, dans un monde qui se mondialise, qui se globalise, où les échanges se développent énormément et créent la richesse, à condition d'ailleurs d'en maîtriser les effets pervers sur le plan social. Sa vocation est d'être présente au monde, ouverte au monde. Et son intérêt essentiel économique n'est pas vers les États-Unis, il est vers l'Europe.
Une voix, un ton, une prosodie même reconnaissable entre tous, ceux du président Jacques Chirac. On était alors en 1997 et cette archive, pour rappeler que les réflexions qui entourent justement cet accord sur le Mercosur et l'Union européenne sont extrêmement anciennes. On est entré d'ailleurs depuis quelques années, cela semble s'accélérer encore avec l'élection de Donald Trump, dans l'ère du protectionnisme. Est-ce que, Arantxa González, le traité Union européenne-Mercosur, cet accord de libre-échange échange donc négocié depuis 25 ans est pareil à une espèce de mort-vivant, c'est-à-dire à un texte qui ne serait plus de son temps.
Je dirais que faisons attention à penser que les États-Unis, c'est le monde. Les États-Unis sont devenus protectionnistes, certes, mais ça ne veut pas dire que le reste de la planète est devenu protectionniste. Si je regarde la planète, je vois les pays africains, qui étaient beaucoup plus réticents à l'ouverture commerciale, qui ont décidé d'intégrer leur marché, faisant une grande zone de libre-échange panafricaine. Si je regarde en Asie, je vois les pays du sud-est asiatique qui sont en train de négocier des accords commerciaux entre eux et avec d'autres. Si je regarde les pays de Golfe, du même. Si je regarde l'Amérique latine aussi. Donc, c'est vrai.
Les Européens, eux, montent leurs droits de douane en ce moment.
Non, les Européens ne montent pas leurs droits de douane. Les Européens utilisent les instruments qu'ils ont entre les mains pour lutter contre la concurrence déloyale.
Bon, donc de fait, sur certains produits comme l'acier, ils montent leurs droits de douane.
Ils montent les droits de douane comme ils ont le droit de les faire quand il y a une question de commerce déloyal. Ils l'ont fait avec les voitures électriques chinoises, par exemple. Mais les Européens, en même temps qu'ils font ça, continuent à faire des accords commerciaux. Alors, ils ne le font pas, à mon avis, parce que c'est idéologique, parce que deux tiers de la croissance en Europe, deux tiers de la croissance chez nous, dépend de notre ouverture au reste du monde. Alors, on peut décider d'échanger notre modèle économique, mais c'est le modèle que nous avons aujourd'hui.
Maxime Combe, une réaction, et au-delà d'ailleurs, est-ce que la philosophie de cet accord correspond à ce que l'on peut attendre du monde d'aujourd'hui ?
Bon, c'est un accord complètement anachronique, parce que le mandat de négociation vient effectivement des années 90, il a été donné à la Commission européenne en 1999. Ce mandat de négociation, quand vous le lisez, il n'y a rien sur le réchauffement climatique, rien sur la protection de la biodiversité, rien sur la lutte contre la déforestation, rien sur la préservation des emplois décents, rien sur la réindustrialisation, qui est devenu un thème majeur à la fois dans notre pays, mais aussi dans les pays d'Amérique latine et d'autres pays à l'échelle de la planète. Et il est anachronique parce qu'il vient effectivement de cette période-là où la grande promesse de la mondialisation et de la libéralisation des marchés des biens et services, mais également de la finance internationale, allait amener prospérité, paix, croissance, bonheur et bien-être à l'ensemble des populations de la planète. 30 ans après, on en voit les conséquences, à la fois en termes de désindustrialisation dans des zones clés des pays du Nord et d'autres régions de la planète, avec des effets sociaux et politiques majeurs. Et on en voit les conséquences aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous sommes entrés dans une période de déstabilisation extrêmement grande de cette ère de la mondialisation, avec des politiques de protection, des politiques visant à revenir sur ces engagements-là. Plus personne ne respecte aujourd'hui réellement les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, du coup, on est là devant un tiraillement. Et plus important peut-être encore, c'est qu'au sein d'un certain nombre de pays, et c'est notamment le cas en France, il n'y a plus de majorité sociale, c'est-à-dire que dans le pays, la population aujourd'hui n'aspire plus à un approfondissement de cette mondialisation, et il n'y a plus de fait de majorité politique pour ces accords-là. Donc nous sommes effectivement à la croisée des chemins, et la question est de savoir s'il y a une volonté jusqu'au boutiste pour aller contre la volonté à la fois d'un pays, de sa société, de sa classe politique, pour finaliser l'accord UE-Mercosur, ou est-ce qu'on dit « ok ». Les choses sont en train de changer, on remet les choses à plat et on reprend sur de nouvelles bases pour effectivement tisser des liens géopolitiques. Il y en a besoin, notamment sur les grands enjeux du XXIe siècle, mais qui ne font pas du commerce international l'alpha et l'oméga et ce qui prédomine sur le reste.
Qu'est-ce qui fait, Arantxa Gonzalez, que ces accords de libre-échange restent tout de même attractifs malgré les problèmes environnementaux, sociaux qu'ils peuvent poser, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au sein de l'Union européenne, l'immense majorité des États, je parle des États et non pas des populations, mais l'immense majorité des États semble favorable à l'accord tel qu'il existe aujourd'hui.
Mais parce qu'ils voient dans ces accords commerciaux, et il faut faire, j'ai fait la distinction entre des accords de libre-échange et des accords commerciaux, ils voient dans ces accords commerciaux la capacité d'impulser des exportations, des produits, de plus en plus des exportations des services qui créent de la richesse et de l'emploi chez nous. Alors, est-ce qu'ils créent de la richesse et de l'emploi chez nous, partout, tout le temps ? Non. Et c'est là où il y a une différence majeure entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. En Europe, en réalité, nous avons des filets de sécurité sociale qui nous permettent des politiques d'accompagnement, qui permettent à ceux qui subissent l'impact du commerce, mais aussi des changements technologiques. Parce que les deux viennent ensemble. Et on fait comme si cette partie de la technologie, c'était un autre monde. C'est la combinaison des deux qui est en train de changer, qui a profondément changé nos économies, qui a eu un impact très fort sur les emplois. Il y a des parties au monde, comme en Europe, où on prend ça en charge collectivement. Il y a des parties au monde où ils ne prennent pas ça en charge, comme c'est le cas des États-Unis, ce qui a donné lieu à une poussée du protectionnisme commercial qui ne protège pas les citoyens. Parce que je ferai la distinction entre le protectionnisme commercial et la protection des citoyens. Et je crois que c'est important de faire la distinction, parce que ce qu'on a vu, c'est que le protectionnisme commercial, très souvent, hélas...
Ne protège pas toujours.
On l'a vu avec Trump 1, on a créé de la douleur partout au monde, il a imposé des tarifs chez nous, à nos exportateurs, d'acier, d'aluminium. Est-ce qu'il a créé des emplois aux États-Unis ? Non. Est-ce qu'il a réduit son déficit commercial ? Non. Parce que cela ne dépend pas du commerce international. Parce que la protection des travailleurs américains qu'il faut protéger, de l'acier et de l'aluminium, ne passe pas par taper sur les producteurs européens comme il l'a fait d'aluminium et d'acier. C'est de s'assurer qu'ils ont des salaires décents, qu'ils ont des pensions, qu'ils ont des soins de santé comme il le faut.
Je reviens, Maxime Comb, sur le début de l'intervention d'Arantxa Gonzalez. L'argument économique, c'est un argument fort peut-être en faveur de cet accord UE-Mercosur quand on voit que la croissance de l'Union européenne l'an dernier était inférieure à 1%. Est-ce que ce n'est pas un moyen de fouetter un peu cette croissance ?
Bon, peut-être une petite précision par rapport à ce que vous avez dit sur une immense majorité d'États européens en faveur de cet accord UE-Mercosur. Ce n'est pas le cas. L'Allemagne a essayé de réunir les pays européens favorables à cet accord et elle n'en a réuni que 12 en comptant l'Allemagne. Cela veut dire qu'il y en a 17 pour l'ensemble des pays européens qui aujourd'hui soit sont contre, ont des réserves ou n'ont pas d'avis.
Il y en a très très peu qui sont contre quand même. Hein.
Il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, vous avez, outre la France, l'Autriche avait pris une position contre cet accord. C'est également le cas des Pays-Bas. La Pologne vient de se positionner contre l'accord par son ministre de l'Agriculture. Il y a des réserves et des critiques très fortes en Irlande. L'Italie est en train d'évoluer. Donc cela divise profondément l'Union européenne. Donc la question, c'est de savoir si on veut construire l'Union européenne sur la base de ces divisions ou plutôt en essayant de reconstruire de l'unité. Justement parce que dans ce monde fragmenté, dans ce monde où les guerres reviennent, dans ce monde où la guerre commerciale s'exprime, est-ce que nous avons besoin de projets pour sortir par le haut et avancer tous ensemble à l'échelle de l'Union européenne, ou nous avons besoin que les deux principales puissances politiques européennes et économiques que sont l'Allemagne et la France s'opposent et se divisent ?
Sur l'argument économique,
mais il suffit de regarder l'étude d'impact qu'a produite la Commission européenne pour justifier cet accord de libre-échange. Eh bien, cette étude d'impact montre que, à échéance de 10 ans, il y aura un impact de 0,1% sur le PIB européen de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, et un impact de moins 0,1% sur les pays du Mercosur. Et dans cette étude d'impact, quand vous regardez, il y a effectivement des filières économiques en Europe qui vont gagner de cet accord de libre-échange, mais quand vous avez des gagnants à travers ces accords de libre-échange, vous avez des perdants. Et les perdants, en retour là, c'est principalement dans les pays du Mercosur, on reviendra certainement sur la question agricole après, mais dans les pays du Mercosur, du point de vue de leur industrie, c'est l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie pharmaceutique, parce qu'elles existent au Brésil, en Uruguay, un petit peu en Argentine, qui vont perdre, et qui vont perdre massivement. Et donc, du coup, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, nous qui, en Europe, disons que nous avons besoin de réindustrialiser, que nous avons besoin de relocaliser nos productions pour ne plus dépendre de ces marchés internationaux, eh bien, nous voulons produire ce que nous dénonçons à l'échelle de l'Union européenne, est-ce que nous voulons le produire dans les pays du Mercosur ? Il y aurait une autre façon de faire. Une sortie par le haut, par exemple, c'est de considérer que la lutte contre le réchauffement climatique devrait nous rassembler et que la reconversion de nos industries, faire en sorte que notre système économique soit bien plus responsable du point de vue environnemental. Et ceci nécessite par exemple d'ouvrir l'accès aux technologies vertes, donc de lever les brevets. Cet accord de libre-échange fait l'inverse. Il protège les brevets des industries européennes contre les industries d'Amérique du Sud. Bon, voilà, on est à rebours de l'histoire en train de se nouer et on est à rebours de l'histoire qu'il faudrait construire pour un 21e siècle qui soit basé sur d'autres logiques que celles qui ont constitué, qui nous ont menés dans cette impasse.
Arantxa Gonzalez, vous, dans le détail justement de cet accord Union européenne-Mercosur, comment vous analysez la dimension économique de cet accord et qu'est-ce qu'elle peut apporter aux pays européens ?
Oui, je voudrais d'abord dire qu'il faudrait que nous nous occupions des questions concernant les pays européens. Laissons les pays du Mercosur décider par eux-mêmes ce qui est bon ou pas bon pour eux. Parce que sinon, à force de dire aux autres ce qu'il faut faire, on tombe encore dans de vieux réflexes européens qu'il faudrait laisser de côté. Du côté européen, je crois qu'il faut partir de quelle est notre position par rapport aux pays du Mercosur. Nous avons un commerce excédentaire avec ces pays. Depuis 20 ans, cet excédent commercial s'est divisé par deux. Au profit de qui ? Au profit de la Chine. Notre excédent commercial est passé à peu près des 35% à 17%.
On s'est fait prendre des parts de marché par la Chine.
Exactement. Alors, on a encore un avantage comparatif, nous, Européens, dans ces marchés. Et donc, l'accord commercial pourrait nous donner un petit avantage par rapport à d'autres comme les Chinois. Il suffit de voir l'intérêt des Chinois par l'Amérique latine. Dans juste cette semaine, le président chinois Xi Jinping a fait sa visite officielle des 5 jours au Brésil. Donc tout le monde regarde tout le monde. Donc je crois qu'il y a une logique économique. Alors quand on dit qu'il y a une logique économique, il y a une logique économique d'ensemble. Ce n'est pas peut-être une augmentation du PIB à double chiffre de 10 ou de 15 ou de 20%. Ce n'est pas non plus des économies énormes, mais il y a un intérêt stratégique d'un point de vue économique aussi. C'est des pays qui ont beaucoup de matières premières dont nous avons besoin pour faire la transition écologique et la transition numérique.
Et ces matières premières, je le précise, c'est notamment le lithium et d'autres matériaux et matières premières.
Et donc, nous avons la possibilité, et là je suis d'accord avec Maxime, de faire une alliance qui nous permet de faire du co-développement.
Ce n'est pas ce que fait l'accord du Mercosur.
Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que l'accord n'empêche pas que cela se fasse.
Si, c'est là... d'une certaine manière. Par exemple, si vous prenez la question des matières premières, la question des matières premières, aujourd'hui, elle est traitée dans ces accords de libre-échange d'une façon très néocoloniale. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Union européenne a cherché à se garantir un accès à ces matières premières, y compris donc agricoles, minières, énergétiques, mais en essayant d'éviter, ça a été le cas, l'accord avec le Chili, c'est le cas, accord UE-Mercosur, en essayant d'éviter ce qu'on peut appeler, de façon historique, d'un point de vue économique, l'industrialisation des matières premières par les pays où ces matières premières sont extraites. En fait, ça va rendre beaucoup plus difficile les politiques volontaristes de l'Argentine, du Brésil, mais ça a été le cas avec le Chili, pour qu'ils en fait conservent la plus-value et transforment ces matières premières sur leur propre territoire, afin justement peut-être de à la fois construire de l'activité, s'orienter vers une économie plus verte, plus climato-compatible, et donc une exportation brute de ces matières premières. Il y aurait une alternative à cela. L'alternative, c'est effectivement nous d'ouvrir nos brevets et nos technologies vertes et de passer des coopérations qui, là, n'ont plus strictement rien à voir avec la question du libre-échange tel qu'il est organisé par cet accord UE-Mercosur, mais de se dire, oui, entre grandes démocraties européennes et grandes démocraties sud-américaines, nous avons un intérêt commun, et cet intérêt commun, c'est de verdir nos économies. Je voudrais juste dire une chose sur l'argument chinois.
L'argument stratégique.
L'argument, effectivement, géopolitique. Considérant que c'est un accord de libre-échange qui va faire refluer la présence ou limiter l'avancée de la Chine en Amérique du Sud. Cet argument, peut-être, aurait-il été valable au milieu des années 2000. Mais il ne l'est absolument plus. Nous avons un accord de libre-échange avec deux pays d'Amérique du Sud, la Colombie et le Pérou. Où est-ce que la Chine est en train d'avancer le plus massivement en Amérique du Sud ? Au Pérou. La Chine vient de construire un port au nord de Lima, pour faciliter les exportations et importations entre la Chine et le Pérou.
Vous pourrez vous opposer théoriquement que sans cet accord, elle avancerait peut-être encore plus vite,
non,
que l'accord permet de le ralentir.
Pas, parce que la question aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce qu'on veut imposer nos règles, nos normes, notre orthodoxie libérale des marchés qui doivent prédominer ? Ou est-ce que nous devons construire de la coopération politique et économique écologique, de lutte contre la déforestation avec ces pays-là. Bien sûr que nous devons le faire, mais ceci ne nécessite pas un accord de libre-échange qui va de facto construire du moins-disant social, du moins-disant environnemental et de la compétition économique dont nous n'avons pas besoin.
Arantxa González, une réaction et après on passera au volet alimentaire et agricole.
Je trouve très difficile de mettre ces arguments dans la bouche de nos partenaires latino-américains. À eux de décider. Les Chiliens viennent de conclure la renégociation de leur accord commercial avec l'Union européenne, accompagnée d'un autre paquet des mesures des financements européens pour pouvoir faire l'industrialisation au Chili.
Et l'accord UE-Chili limite considérablement la possibilité pour le Chili d'industrialiser ses matières
premières.
Mais ça, c'est aux Chiliens de décider. C'est pas à nous de décider ce qui est bon pour les Chiliens. Les Chiliens ont considéré que l'accord avec un paquet des financements européens que l'Union européenne a décidé de mettre sur la table, avec la possibilité d'appliquer des prix différentiels pour le lithium et pour le cuivre selon les marchés d'exportation ou les marchés domestiques, pour garantir un meilleur accès pour le produit, les matières premières pour la transformation domestique. Et ils l'ont, c'est eux qui l'ont signé. Et eux, aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer nos partenaires. Aujourd'hui, ils sont des options. S'ils n'aiment pas l'Union européenne, ils peuvent signer avec la Chine et sinon avec l'Arabie saoudite. Ils signent avec l'Europe parce qu'ils voient un intérêt à signer avec l'Europe. Alors la question pour nous est, est-ce qu'on voit, nous, un intérêt à signer avec eux? À mon avis, on voit un intérêt, pourvu qu'on soit honnête, nous, des quels sont les secteurs les plus fragiles en Europe? En l'occurrence, quels sont les secteurs les plus fragiles en France, et qu'on soit en mesure de donner une réponse à ces secteurs plus fragiles. Qu'on ne dise pas, alors on ouvre et circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne serait pas responsable de la part des négociateurs communautaires.
La voix du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.
On a été très clair. On a dit sur le volet agricole, pour nous, c'est non. Et c'est pas non peut-être ou oui mais, c'est non. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que le Premier ministre ait annoncé qu'il souhaitait mettre cette discussion à l'Assemblée la semaine prochaine. Mais ça ne sera pas suffisant. Parce que ce sujet, c'est un sujet européen. Et si la France semble alignée au moment où on se parle, et encore une fois, on s'en réjouit. On a besoin de continuer à convaincre nos partenaires européens. C'est ce que nous faisons, nous, avec nos partenaires des syndicats agricoles européens qui se sont tous unanimement prononcés en défaveur de cet accord. Et donc, ce signe envoyé serait un signe positif, évidemment.
Maxime Combes, tous les agriculteurs seraient-ils perdants? Tous les agriculteurs de France seraient-ils perdants avec cet accord? Ou bien c'est certains sous-secteurs en particulier? Je pense notamment aux éleveurs qui seraient les grands perdants de cet accord de libre-échange.
Il faut bien comprendre ce qu'est un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange, ce n'est pas un accord de commerce international. C'est de considérer que le commerce international doit être laissé au libre jeu des marchés et des acteurs qui font ces importations et ces exportations avec le moins possible de régulation publique. Régulation publique qui peuvent passer par des droits de douane, qui peuvent passer par des quotas d'importation, qui peuvent passer des règles aux frontières visant à limiter l'importation ou l'exportation de tel ou tel produit. Une fois qu'on a dit cela, effectivement, on met en concurrence donc du coup des secteurs et des filières qui ont des compétitivités prix totalement différentes. Et donc, le libre-échange organise l'éviction par les prix des moins compétitifs. Donc, il se trouve effectivement, quand vous mettez en concurrence les filières agricoles européennes avec les filières agricoles du Mercosur, et notamment celles du Brésil et de l'Argentine, eh bien vous allez avoir ceux qui sont les moins compétitifs dans ce marché international. Donc ce sont les producteurs de viande européens et notamment français, mais ce sont également les producteurs de lait brésiliens, ce sont également la petite production familiale qui peut exister vivrière encore en Argentine et au Brésil, qui vont devoir supporter les filières les plus compétitives qui vont gagner des deux côtés. Donc il y a quelques filières agricoles en France qui vont gagner à cet accord. C'est principalement les vins et spiritueux, la filière laitière et l'agroalimentaire la plus industrialisée. Celles qui vont perdre sont effectivement celles qui sont les moins compétitives. Face à cela, celles et ceux qui défendent cet accord disent il existe des filets de sécurité, nous allons mettre en œuvre des compensations.
Et les fameux clauses miroirs également.
Alors, c'est un autre sujet, mais que celles et ceux qui vont perdre dans cette compétition, eh bien, on va les rattraper par ces filets de sécurité. sécurité, où on va leur compenser le fait qu'ils vont devoir arrêter leurs activités. En gros, on est en train de dire à ces gens, vous n'avez pas fait le bon choix, plutôt que d'élever du bœuf dans les Piémonts, Pyrénéens, Alpins ou du Massif Central, il faut que vous deveniez exportateur de véhicules thermiques pour gagner des marchés au Brésil et en Argentine. Ça pose une question à la fois morale et politique, et de considérer, avons-nous besoin d'importer de l'autre bout de la planète ce que nous sommes capables de produire sur le territoire européen ? Manifestement, à la fois les populations et les producteurs disent non.
Arantxa González, est-ce qu'on peut protéger nos agriculteurs et notamment les éleveurs en particulier avec ces fameuses clauses miroirs, j'y reviens, est-ce qu'elles peuvent être efficaces dans leur application concrète ?
Bon, d'abord, nos agriculteurs sont compétitifs. Si je regarde l'excédent commercial agricole de l'Union européenne, il est passé de 10 milliards d'euros en 2008 à 70 milliards d'euros aujourd'hui. Donc, ne faisons pas comme si nos agriculteurs n'étaient pas compétitifs. Ils les sont. Et ils sont forts sur le marché international. C'est pourquoi ils ont la capacité de, pas seulement de survivre, mais de faire des bonnes affaires.
Ils sont forts peut-être, mais ils sont inquiets.
Alors, deux. Je viens sur l'inquiétude qui, en France, passe par trois filières. La filière de la volaille, la filière du sucre, la filière de la viande bovine. Où cet accord, mettons les choses en perspective, ouvrirait aux pays du Mercosur un espace dans les marchés européens équivalent à peu près à 1,5% de la consommation européenne. Ça, c'est la taille de la concession, entre guillemets, qui donnerait l'Union européenne aux pays du Mercosur. Au-delà de ces 1,5 à peu près de la consommation européenne, il y a des pénalisations tellement fortes qu'ils ne peuvent pas exporter au-delà de ces montants. Donc, c'est avec des clauses de sauvegarde, si jamais, par hasard, on passerait au-delà. Donc, les négociateurs ont pris en considération qu'il y a des filières qui nécessitent une protection à géométrie variable par rapport à d'autres qui sont plus compétitives et qui n'ont pas besoin. Donc, c'est inclus dans les mandats du négociateur. Enfin, les produits alimentaires qui rentrent dans l'Union européenne, qu'ils rentrent de Mercosur, ou qu'ils rentrent des États-Unis ou qu'ils rentrent de la Chine, doivent répondre aux mêmes règles sanitaires et phytosanitaires que dans l'Union européenne.
Il n'y aura pas de bœuf aux hormones ou de poulet accéléré à la croissance ?
Alors, ça, alors, il y a, dans les cas, ça, mais ça, c'est la...
Il y en a déjà.
Il y a, au Brésil, une hormone qui est encore utilisée au Brésil.
Plusieurs.
Une qui est utilisée au Brésil sur la viande des femelles, qui n'est pas utilisée en Europe, et qui, dans l'accord, est prévu qu'elle ne puisse pas, la viande des femelles ne puisse pas être exportée au marché européen pendant 12 mois, en attendant que les Brésiliens arrêtent d'utiliser cette hormone. Donc, c'est pas comme si, c'est pas la première fois qu'on traite ces sujets. N'oublions pas le bœuf aux hormones des États-Unis. Hein? N'oublions pas.
Maxime Combe, une réaction, et notamment une réaction sur l'efficacité, selon vous, réelle ou supposée de ces protections ?
Non, mais ces protections sont très dérisoires. On considère, il vient d'y avoir un scandale sur le fait qu'on importait depuis sans doute des années, effectivement, du bœuf femelle avec des hormones cancérigènes depuis le Brésil. On n'est pas du tout en mesure de tracer ces productions et de garantir ce qui est sur le papier. Mais au-delà de cette impossibilité de tracer, il faut bien se rendre compte que l'argument selon lequel le quota nouveau octroyé par exemple pour la viande de bœuf de 99 000 tonnes à la production brésilienne serait résiduel au regard de la consommation européenne. Ceci ne fait pas sens quand on regarde dans le détail. Ce qui va principalement arriver sur le marché européen, ce sont les bons morceaux. C'est ce qu'on appelle la loyo. Et quand on fait l'addition de l'ensemble des quotas existants et en cours de négociation sur d'autres accords de libre-échange et qui pourraient entrer en mesure dans les années à venir, on va arriver à un montant d'aloyaux importés équivalent à la moitié de la consommation européenne. La loyo, c'est ce sur quoi aujourd'hui la production bovine, les producteurs de bœuf européens font leur plus-value, peuvent se rémunérer. Donc vous leur retirez 50% de cette possibilité-là. Et par ailleurs, ça pose une question morale. À quoi bon importer du bœuf venant de Nouvelle-Zélande, du Canada ou d'Amérique du Sud quand on est capable de le produire en Europe et surtout quand il y a aujourd'hui une politique publique européenne qui consiste à dire qu'il faudrait moins consommer de viande. La compétitivité agricole, madame, vous avez pris les chiffres globaux sont exacts, mais ce n'est pas le vrai pour toutes les filières. Donc ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir des sacrifiés, que ces filières-là, quand elles sont sacrifiées, ce n'est pas grave parce que nous aurions des filets de sécurité en Europe pour pouvoir les rattraper, mais je vous invite simplement à aller sur les piquets de mobilisation agricole et aller expliquer ça aux agriculteurs, qu'ils auraient dû être exportateurs de voitures thermiques plutôt qu'agriculteurs. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Et ceci a des répercussions sociales. Il s'est passé la même chose dans le monde industriel, dans les années 90 et dans les années 2000, notamment dans le nord et l'est de la France. On leur a dit, écoutez, effectivement, vous êtes une variable d'ajustement de la mondialisation, les usines ferment, elles sont délocalisées, mais ce n'est pas grave, il y a des filets de sécurité. Mais aujourd'hui, on voit les répercussions sociales et politiques de ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années. Et ce sont les endroits aujourd'hui qui votent extrême droite, ce sont les endroits aujourd'hui où il y a une désespérance sociale la plus grande. Et ceci, c'est quand même plus important que 0,1% de croissance sur 10 ans qu'on pourrait gagner avec cet accord.
Arantxa González, une réaction, et notamment une réaction sur la dimension, sur la souffrance des agriculteurs et sur la façon dont eux-mêmes se perçoivent. Très souvent, effectivement, ils ne sont pas, à l'échelle individuelle, de grands exportateurs.
D'abord, je n'ai pas besoin d'aller au piquet en France parce que je viens d'une famille d'agriculteurs en Espagne, hélas. Donc, je connais. Et je sais d'où vient la souffrance. La souffrance vient d'abord du fait qu'on ne rémunère pas assez les prix des agriculteurs. Parce déjà. Alors, ok. Mais qu'il y ait du commerce international ou pas, c'est l'équilibre entre des consommateurs, des producteurs et des intermédiaires au milieu. Donc, il y a des questions, il y a les changements climatiques, il y a les prix des intrants, il y a beaucoup d'éléments qui viennent s'ajouter, donc dire que la désespérance des agriculteurs, c'est le résultat d'une ouverture du marché qui représente 1,5 de la consommation européenne, ce serait pas juste. Je crois qu'il faut reconnaître que si l'ouverture commerciale peut causer des dommages, il faut prendre ça en charge. Mais il faut pas mettre sur les dos d'un accord commercial qui n'est pas encore conclu, les problèmes de l'agriculture européenne. Parce que là, on serait en train de faire ce qu'on est très bien à faire, du populisme, qui met toujours...
Non, je ne vous permets pas, madame. Je vous permets pas.
Non, non, mais je ne vous dis pas. Mais je crois qu'il faut donner des réponses. Et je crois que c'est à ces réponses que je voudrais qu'on puisse aussi répondre.
Alors peut-être un élément de réponse avec le président de la République, Emmanuel Macron. Il s'exprimait le 18 novembre dernier depuis Buenos Aires, depuis même le tarmac de Buenos Aires.
Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Lorsqu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Et je vous ai dit, cet accord sera bon pour vous. 5 ans après la mise en application provisoire de l'accord avec le Canada, il est bon pour l'agriculture française. Contrairement à ce que tous les mensonges qui circulent peuvent dire. C'est-à-dire qu'on exporte plus de lait, plus de fromage vers le Canada et beaucoup d'autres produits agricoles, et que ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé, parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer.
La France ne signera pas cet accord en l'état, Maxime Combes, c'est ce qu'a déclaré également le président de la République. Qu'est-ce que cela signifie?
Sur le plan légal, strictement rien. Cela n'a aucune consistance. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la France signe ou signe pas, la question est de savoir si la Commission européenne qui a mandat pour finaliser cet accord de libre-échange, un mandat que lui a donné les 27 États membres et que les États membres ont confirmé pendant 25 ans, si la Commission européenne, et donc du coup elle a mandat de la France, elle a mandat en notre nom de chacune et chacun, de finaliser ces négociations. C'est cette étape dans laquelle on est, et la Commission européenne est en train de négocier avec ses alter-ego du Mercosur la conclusion de cet accord, en précisant que 99% de l'accord est déjà conclu depuis 2019. Et quand Emmanuel Macron dit « je me suis toujours opposé à cet accord-là », ce n'est pas vrai. En 2019, quand l'accord est conclu, c'est avec l'assentiment, le soutien de la France, et même Emmanuel Macron, en marge du G20 d'Osaka en juin 2019, dit « c'est un très bon accord, c'est un accord qui respecte l'accord de Paris sur le climat, qui protège nos filières sensibles, et il va
changer
d'avis. »
Qu'est-ce qui reste à négocier alors, pour qu'on comprenne bien, quand on dit « on ne signera pas en l'état », qu'est-ce qu'on peut encore modifier aujourd'hui dans ces négociations ?
La Commission européenne a dit que l'économie générale de l'accord ne serait pas modifiée, que le contenu même de l'accord ne serait pas réouvert, et en fait, on est en train de discuter, si vous voulez, de la quatrième de couverture. C'est en fait une annexe, un document qui va être annexé à l'accord. La Commission européenne a appelé ça un joint instrument, un instrument joint, dans lequel on consigne, en tout cas dans sa version préliminaire que nous avions fait fuiter et qui n'est toujours pas publique, qui consigne les engagements que les deux parties ont pris dans des institutions internationales sur le climat, sur la déforestation, sur le droit, les droits humains et les droits des travailleurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments à ajouter ? Ça, je ne sais pas vous le dire. Aujourd'hui, c'est une opacité totale et on ne sait pas ce qu'il y a réellement précisément à l'intérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de clause miroir qui aurait été ajoutée. Sur ces clauses miroirs, juste, j'ai une anecdote qui est quand même extrêmement parlante. Tout le monde parle de clause miroir en nous disant c'est ça qui va permettre que le commerce international devienne acceptable et ne fragilise pas les filières les plus fragiles. La seule véritable clause miroir qui a été intégrée dans un accord de libre-échange, c'est avec la Nouvelle-Zélande. On a interdit l'importation de Nouvelle-Zélande de bœuf issu de feedlots néo-zélandais. Il n'y a de feedlots, c'est les centres d'engraissement, comme on en voit aux États-Unis et tout ça. Il n'y a pas de feedlots en Nouvelle-Zélande. Est-ce que cette clause miroir a été intégrée à l'accord avec le Mercosur, alors qu'il y a des feedlots au Brésil, qui commencent à y en avoir beaucoup également en Argentine ? Pas du tout.
Arantxa González, qu'on soit favorable ou non à cet accord, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème dans la façon dont ces négociations sont menées depuis 25 ans, et plus encore aujourd'hui où les choses s'accélèrent, et notamment dans cette opacité qui est presque, j'allais dire, organisée, ou en tout cas maintenue par la Commission européenne ?
Alors parlons de comment on négocie des accords commerciaux dans l'Union européenne depuis 1957, parce que ça n'a pas changé. D'abord, il y a un mandat qui est donné par les États membres à la Commission européenne qui négocie dans leur nom. Un mandat qui est les points de départ. Il y a une négociation. Chaque semaine, les États membres et la Commission se réunissent et la Commission rend compte aux États membres, à leur mandant, de la manière dont elle est en train de négocier. Et au cours de la négociation, les mandats, quelque part, s'améliorent, change, s'adapte aux nouvelles réalités. Par exemple, quand les mandats étaient donnés à la Commission, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il y a aujourd'hui l'accord de Paris sur les changements climatiques. Donc, il serait utile que cet accord reprenne l'engagement des parties de respecter l'accord de Paris.
Et c'est notamment la demande du gouvernement français.
Et je crois que c'est une bonne demande. De même que la Convention sur la protection de la biodiversité. De même que la législation européenne en matière de déforestation.
Mais ça ne répond pas à ma question sur l'opacité de ces négociations. Comment nous, citoyens, pouvons-nous comprendre, suivre ce qui est en train d'être joué et de se tramer à Bruxelles avec le reste du monde ?
Alors d'abord, c'est la Commission qui négocie et qui donne la transparence à ses États membres. Il y a la Commission qui passe régulièrement devant le Parlement européen pour rendre compte de la manière dont avancent les négociations. Et il y a des dialogues avec la société civile. Certes, on ne rentre pas dans tous les détails d'une négociation, mais je ne comprends pas, je ne vois pas non plus dans un pays comme la France, mais quand elle est en train de négocier des accords avec des syndicats ou des entreprises ou des pays tiers, rendre compte tout le temps, dans tous les détails, du contenu de cet accord. En tout état des causes, cet accord ne peut être adopté que à la majorité qualifiée des États membres et avec l'accord du Parlement européen. Donc, il peut y avoir des moments où on donne l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est normal, parce que sinon on ne peut pas négocier. Mais on ne peut pas conclure un accord si on n'a pas l'accord à la majorité qualifiée, depuis 1957, c'est les mêmes règles, des États membres et avec l'accord du Parlement européen.
Maxime Combes, en quelques mots, il nous reste 30 secondes sur la suite de la procédure aujourd'hui. Quel chemin va continuer de suivre cet accord ?
Soit la Commission européenne, effectivement, ne tient pas compte de l'opposition grandissante en Europe, et donc du coup, ça crée un problème politique majeur à l'échelle de l'Union européenne, et donc annonce avec ses alter ego du Mercosur que cet accord-là est conclu et qu'il va effectivement permettre toutes les difficultés qu'on a évoquées. Et dans ce cas-là, il y aura un processus de ratification, mais donc du coup, le texte va venir devant le Conseil et devant le Parlement européen, et ce sera à prendre ou à laisser. Donc il n'y aura pas de contrôle démocratique et avec une possibilité de modifier le contenu de cet accord-là, ce sera à prendre ou à laisser.
Le vote du Parlement européen, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de modification.
C'est oui ou c'est non. Et surtout, va venir un argument d'autorité, y compris de la Commission européenne, consistant à dire, écoutez, nous avons négocié pendant 25 ans, il ne faut pas mettre à la poubelle tout ce travail-là. Et donc aujourd'hui, au moment où on est à un moment charnière de l'évolution de la mondialisation, eh bien peut-être qu'à ce moment, à ce carrefour-là, posons-nous, reposons les bases et renégocions différemment avec nos partenaires.
Merci beaucoup à tous les deux de ce débat et de vos lumières à chacun. Rancha González, je rappelle que vous êtes doyenne de l'École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris. Maxime Combes, spécialiste du commerce international et des accords de libre-échange. Merci beaucoup à tous les deux.
France Culture.
Serge Effez est psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Tout au long de sa carrière, il a épousé des thèmes spécifiques à notre époque.
Ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence, c'est d'avoir deux parents qui sont là pour vous inconditionnellement et qui vous aiment et qui vous soutiennent.
À voix nue, Serge Effez, du lundi au vendredi à 19h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bonjour, c'est Antoine Guillot de Plan Large. Je vous donne rendez-vous à l'avant-première de Grand